marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Tirailleurs, tirailleurs, tirailleurs sénégalais. Gnignon di Djamba, tirailleurs, tirailleurs, tirailleurs sénégalais. Gnignon di Kéman.
Hommage aux tirailleurs venus de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, interprété par Baye Balo au chant et Kader Fahem à la guitare. Un chant mêlé et symbolique de la diversité des tirailleurs que l'on appelle généralement sénégalais. Mais que savons-nous de leur histoire commune vécue au siècle dernier pendant la Grande Guerre? Comment les tirailleurs d'Afrique et de l'actuel Maghreb ont-ils été recrutés par l'Empire français? Est-il possible d'évoquer et de transmettre cette histoire de part et d'autre de la Méditerranée? Autant de questions posées par nos invités historiens et archivistes, réunis à Paris en colloque après Rabat et Tunis. 3 ans de réflexion autour de la construction de la mémoire, de la mobilisation des troupes d'Afrique.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue à RFI, monsieur le professeur Salioum Baye. Vous êtes l'ancien directeur des archives du Sénégal et vous avez été le premier à défendre ce concept de mémoire partagée. De quoi s'agit-il ?
Merci bien Valérie, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Mais je voulais auparavant m'associer à la douleur qui frappe la communauté intellectuelle sénégalaise, puisque nous venons de perdre un ami très cher, j'ai nommé le professeur Yoro Fall. C'était un homme charmant, extrêmement fin, plein d'intelligence et qui savait partager tout ce qu'il savait avec générosité et simplicité.
Alors, rendre hommage à la mémoire de Yoro Fall, c'est aussi évoquer ce travail en commun et cette idée de mémoire partagée.
Comme j'ai dit toujours, on ne sait jamais, on nous accorde une paternité dont on n'est pas sûr, mais enfin, ce qui est constant, c'est que nous avons eu pendant longtemps à parler de patrimoine commun. Puisque j'ai eu la chance d'être à la tête des archives du Sénégal et donc conservateur des archives de l'AOF, qui concerne 8 territoires et la France. Et d'idée en idée, avec le temps, il arrive que des concepts soient mûrs. Il était important que les archivistes d'abord, mais également aussi ceux qui l'utilisent, cette mémoire, à la fois les autorités politiques, administratives, mais aussi les historiens, le peuple, comment on peut concevoir une mémoire faite, bien sûr, sous la souveraineté de la France, puisque les archives de l'AOF et du Sénégal, bien sûr, c'est la France qui les a créées, une France administrative, les archives administratives, faites sur le sol sénégalais, donc sur le sol africain. Il était important que, selon ce principe de pertinence, que les Africains se l'approprient.
Voilà, c'est quand même une histoire de réappropriation de sa propre histoire.
Tout à fait.
Salioum
Baye. Tout à fait.
Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec vos fils, puisque vous parliez de paternité. Et vous avez de nombreux fils et de nombreuses filles. D'ailleurs, je m'inclus dans votre grande famille qui se réclame de vous, n'est-ce pas Jean-Pierre Batte ? Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archiviste, paléographe, docteur en histoire détaché aux Archives nationales. Et vous mettez les pieds dans le plat en interpellant les chercheurs maghrébins et subsahariens sur l'importance et la richesse des archives relatives à la Grande Guerre. Pourquoi cette interpellation ?
Alors en réalité, l'interpellation, c'est plus une invitation, puisque c'est un travail qui a été, il faut le préciser sur ce programme, lancé d'abord par les équipes des archives du Maroc, avec Jamaa Baïda, repris ensuite par les équipes des archives de Tunisie. Et lorsqu'on a fait le troisième volet, en 2016, en France, on a souhaité élargir assez naturellement à notre père Salioum Baye, et donc à travers lui, en réalité, à toute l'Afrique issue de l'AOF, de l'AEF et de Madagascar. L'idée est la suivante, l'histoire est toujours présentée comme un destin collectif, mais on peut arriver à l'échelle individuelle et à travers cette échelle individuelle à des trajectoires au sein des empires, au sein de la guerre mondiale. Pour nous, ça a été illustré par une grande opération patrimoniale qui a été la numérisation du livre d'or des morts pour la France, c'est-à-dire, si vous voulez, un registre d'état civil militaire intéressant tous les tirailleurs et soldats issus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et du Sénégal, dont nous avons effectué la numérisation pour que tous les citoyens du monde puissent y avoir librement accès.
Voilà, c'est toute la question de l'accès à ces archives et c'est ma question de bienvenue pour vous, Pierre Vermeuren. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire du Maghreb à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'un des piliers de ce cycle de colloques sur la mémoire de la mobilisation des troupes africaines. À quoi ça sert de commémorer du coup la Grande Guerre à travers ce cycle de colloques si en effet les étudiants, les historiens, eux, ceux d'Afrique et du Maghreb, n'ont pas les moyens de la faire, cette histoire?
Oui, vous posez une question redoutable pour l'historien. On pense que les historiens du contemporain disposent d'une masse absolument considérable d'archives. Mais en réalité, pour les historiens du Maghreb, pour parler de ce que je connais le mieux, l'essentiel des archives militaires ont été transférées en France, en métropole, au moment des indépendances. Et donc, pour les chercheurs du Maghreb, pour les historiens du Maghreb, bon, qui d'une part, évidemment, ne sont pas toujours à l'aise avec cette histoire, parce qu'elle a été longtemps décriée comme une histoire de, employons les grands mots, de collaboration, entre guillemets. Bon, aujourd'hui, on s'est éloigné des décolonisations, mais les historiens, même s'ils ont moins de problèmes peut-être idéologiques, ont des problèmes matériels considérables, parce que venir assister, venir travailler dans les archives de France, c'est quelque chose de complexe. Alors, le temps de la numérisation va aujourd'hui faciliter les choses, c'est ce dont vient de parler Jean-Pierre, mais enfin on en est quand même qu'à un début parce que la masse, comme le disait Salom Bay, la France a été un tel état administratif hein, qui a les plus grandes archives du monde par leur masse, par leur quantité, et donc cette masse non seulement elle est colossale comme son nom l'indique, mais elle est dispersée sur le territoire français. Donc le travail est redoutable et déjà cette mémoire ne peut pas passer par autre chose d'abord qu'une sorte d'état des lieux, de la dispersion et de l'importance des fonds.
Alors les fonds, puisqu'on a autour de cette table des historiens, des archivistes, ce sont des fonds écrits. Ça, c'est vrai que vous, auditeurs, c'est sans doute à cela que vous pensez immédiatement. Mais sachez que les archives sur la Première Guerre mondiale, c'est aussi les images qui ont été tournées par les opérateurs. Et c'est aussi peut-être des sons. Alors les sons sont très rares et j'ai le plaisir, RFI a le plaisir de partager avec vous l'enregistrement du tirailleur sénégalais Bakary Diallo, enrôlé volontaire à Saint-Louis du Sénégal en 1914. Saloum Bay, je vois vos yeux qui s'allument. Un enregistrement de l'historien français Marc Michel, réalisé dans les années 60, lorsque, jeune historien, il écrivait sa thèse « Ouvrez grand vos oreilles ».
Je suis parti en France avec le 7e bataillon du tirailleur sénégalais.
Oui. Vous avez embarqué
on
à Casablanca.
On a embarqué à Casablanca. On s'est débarqué à Sec. Mais là, on nous a dirigé directement sur le front.
Parti en France dès 1914 avec le 7e bataillon de tirailleurs sénégalais, Bakary Diallo est directement envoyé au front. Engagé volontaire, il raconte comment il est allé s'enrôler à Saint-Louis du Sénégal.
Pour s'engager, je suis arrivé à Saint-Louis. J'ai resté à Saint-Louis. Et puis un jour, on s'est rendu place Fédère. Et il se trouvait à l'instant qu'une compagnie de tirailleurs sénégalais qui était en manœuvre pour aller au quartier, le premier régiment tirailleurs sénégalais, là-bas dans le nord. Il venait comme ça, la musique, les officiers à cheval, les soldats au pas, tac, 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 la musique. On a regardé ça comme quelque chose d'extraordinaire et qui nous a émerveillés et qui nous a plu. Le lendemain, nous sommes allés nous présenter au camp du premier Sénégalais. On arrive, bonjour. Alors, ils nous demandent qu'est-ce que nous voulions. Nous disons, nous voulons nous engager. Alors, nous étions reçus comme tirailleurs et pour 4 ans.
Dans ces premières opérations là, auxquelles vous avez participé, il y a eu beaucoup de pertes.
Ah ben, il y a eu toujours des pertes.
Beaucoup plus. Est-ce qu'à votre avis, il y en avait plus?
On peut dire beaucoup, parce que quand on perd déjà une âme, c'est déjà beaucoup.
Oui, bien sûr.
À plus forte de raison de pertes militaires. Puis alors, les Allemands aussi, ils ont dû subir quelques
pertes. Et vous étiez...
Naturellement, parce que c'était la guerre en ce moment-là. C'était l'attaque contre les attaques.
Et vous étiez avec des bataillons blancs à cette époque?
Non, nous étions tirailleurs sénégalais.
Et à côté de vous, il n'y avait pas des bataillons?
À côté de nous, il y avait les Zouaves.
Les Zouaves, ah oui.
Il y avait les Zouaves et puis alors, il y avait les troupes aussi, les troupes blanches, hein, qui étaient à notre gauche.
À votre gauche.
Oui, oui. À votre gauche.
C'était quoi? C'était des métropolitains?
Des métropolitains, des Français, je crois. Et nous, nous étions là, comme des tailleurs sénégalais.
C'était pas encore des tranchées, à ce moment-là.
Tranchées, c'était
déjà des tranchées.
Ah, oui, c'était tranchées. Nous sommes venus, aussitôt, nous avons fait des tranchées. Vous savez que les tirailleurs, même au Maroc, faisaient des tranchées.
Oui, je sais.
Mmh. Alors, nous sommes venus à Poulet, Vergelet, on faisait des tranchées. Il fallait faire des tranchées. Qu'est-ce et alors, quitter les tranchées pour contre-attaquer.
Vous avez contre-attaqué?
On a contre-attaqué là. Après,
qu'est-ce que vous pensiez des Allemands à ce moment-là?
Rien du tout.
Rien du tout.
C'était le guerrier qui était en face de nous, en face de la guerre. Et on ne pensait à rien dire.
Plus tard.
Ni bon, ni mauvais. On faisait la guerre.
Alors, Bakary était un volontaire, ils ne l'étaient pas tous. Loin de là, les tirailleurs pour partir à la guerre, mais pour comprendre l'état d'esprit particulier des tirailleurs musulmans, je vous propose d'écouter la communication passionnante du professeur Jama Baïda, directeur des archives du Maroc. Il s'exprimait au colloque Afrique du Nord, Afrique subsaharienne dans la Grande Guerre, aux Archives nationales, à Pierrefitte, c'est tout près de Paris.
Avec le déclenchement de la Grande Guerre, une aventure inédite avait commencé pour des bataillons marocains qui avaient été mobilisés pour seconder l'effort de guerre français. Les soldats marocains ont été impliqués, pour la première fois dans l'histoire de leur pays, dans un conflit en dehors de Dar l'Islam, la terre d'Islam, sous la bannière de la France, mais avec la bénédiction du sultan Moulay Youssef et d'une élite de ulama, doctes de la foi. Si la bravoure ne leur faisait pas défaut, il leur fallait quand même dépasser un barrage psychologique, religieux et identitaire du fait qu'ils étaient dans le camp des chrétiens, avec la possibilité d'orienter leurs armes contre des sujets ottomans. Ce n'était un secret pour personne que l'Empire ottoman était perçu par une certaine élite marocaine comme la grande puissance musulmane qui pouvait voler au secours des peuples musulmans d'Afrique du Nord tombés sous la tutelle de l'occupation étrangère. C'est ce capital de sympathie transmissible aux troupes marocaines sous le choc d'une situation inédite, c'est ce capital de sympathie que le représentant de la République française au Maroc, le général Lyoté, pas encore maréchal, allait s'ingénier à atténuer, à défaut de l'anéantir, surtout que la machine de propagande ottomane a très vite fonctionné pour appeler les Marocains au djihad et à ne pas combattre aux côtés de la France, puissance occupante et puissance chrétienne. Nous avons plusieurs appels du sultan en 1914, en 1915 notamment, le monarque étant considéré comme le commandeur des croyants, suprême autorité religieuse du pays. Et je vous lis un extrait du message adressé le 30 août 1914, c'est-à-dire moins d'un mois après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ou plutôt la Grande Guerre. Citation: Notre Majesté est affectée de la malheureuse situation qui met le feu à toute l'Europe. Elle a surtout été peinée de l'inqualifiable agression dont le gouvernement français a été l'objet de la part de l'Allemagne. La France s'est trouvée dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la défense de son honneur national et ses alliés se sont mis à ses côtés pour combattre l'ennemi sur terre et sur mer. C'est ce qui a motivé votre envoi en France. Nous sommes persuadés que vous saurez montrer, au milieu des autres troupes, vos qualités de courage, de bravoure et de hardiesse à l'heure du combat. En vous revivront les prouesses de vos ancêtres, vous allez acquérir une noble réputation et vous laisserez un souvenir glorieux qui se transmettra de génération en génération, de génération à la postérité. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est l'impact de l'appel du sultan sur ces mêmes guerriers. Lyautey lui-même donne son appréciation sur l'impact de ces appels du sultan en écrivant « Pendant la guerre, malgré le passage de la Turquie au camp opposé, il n'y a pas eu ici de mouvement d'opinion parce qu'ici le sultan marchait avec nous et que de ce fait, plaçait les musulmans marocains en état de paix avec leur conscience. » Et avec les appels du sultan et les fatwas des ulémas et des chefs de confréries religieuses, nous sommes en présence, en fait, d'une politique savamment orchestrée par le général Lyautey et ses collaborateurs. C'est la fameuse politique musulmane de Lyautey. Ce dernier avait même écrit pendant la guerre, en 1916, à l'adresse du Quai d'Orsay, qui, à un certain moment, montrait quelques hésitations à le suivre sur sa politique musulmane, il a écrit « Je n'ai tenu le Maroc que par la politique musulmane, je suis sûr qu'elle est la bonne et je demande instamment que personne ne vienne gâcher mon jeu. » Fin de citation.
Extrait de l'allocution de Jamin Baïda, donc à votre colloque Pierre Vermeuren. Nous sommes en 1914, le sultan du Maroc appelle à soutenir l'effort de guerre de la France. C'est un message en réalité concocté par le général Lyautey. Le militaire a une stratégie pour rallier les tirailleurs marocains. C'est sa politique musulmane. Comment pourriez-vous définir cette politique de Lyautey? Quelle est sa stratégie au fond, Pierre Vermeuren?
La politique musulmane de Lyautey, elle consiste à prendre acte d'un fait important, c'est que le Maroc, c'est un pays de 5 millions d'habitants, hostile à la présence française, et que Lyautey dispose de quelques milliers d'hommes, souvent en provenance d'ailleurs d'Algérie et du Sénégal, mais pas seulement, pour pacifier le pays. Il s'appuie sur le sultan à Rabat, et le sultan qui est le chef de l'islam politique marocain. Et à ce titre-là, toute la chaîne de commandement islamique, les oulémas, etc., sont soumis à son autorité. Et avec des relais à la fois religieux donc, et féodaux, c'est ce qu'on appellera aussi la politique des grands caïds. Donc il va s'appuyer dans le sud du pays, dans le Haut-Atlas, sur ces grands féodaux pour tenir leur région, et notamment le Haut-Atlas. Voilà. Donc c'est une politique des égards vis-à-vis de toutes les chefferies musulmanes, sultans et palais compris. Mais évidemment, c'est une forme de gouvernement indirect, puisqu'il repose au fond sur les hiérarchies islamiques qui, elles-mêmes, vont pouvoir appuyer sur leur légitimité religieuse pour dominer et orienter le peuple aux côtés de la France. Et c'est le cas, évidemment, en 14-18, puisque le sultan appelle, comme il vient d'être dit, les soldats marocains à se lever au nom des intérêts du pays aux côtés de la France.
Donc cela veut dire, Pierre Vermeuren, que le sultan a intérêt à fédérer ses troupes, en quelque sorte, pour les mettre à disposition de la France?
Bien sûr, parce que c'est un jeu de deux. Hein. Au fond, le traité de protectorat donne à la France la tâche de protéger le Maroc et il donne au sultan la possibilité de réunifier son pays qui était très divisé et qui lui échappait très grandement en 1912 grâce à la puissance de l'armée française et grâce à la puissance politique de la France.
C'est passionnant de découvrir le fruit de vos travaux, messieurs, sur l'implication des tirailleurs africains et maghrébins de la Grande Guerre. Et c'est à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde consacrée aux tirailleurs africains et maghrébins de la Première Guerre mondiale, des soldats noirs et musulmans qui pour la première fois ont quitté leur continent pour aller défendre les couleurs de la Grande France.
honoré, honorable, fier, courageux, respectable. Et pourtant la mission accomplie, l'amnésie a frappé le pays. Grand homme tout en couleur, retraité à 7 heures.
Je vous propose d'écouter la suite du témoignage de Bakary Diallo, engagé volontaire dans le 7e régiment de tirailleurs sénégalais en 1914. Sa voix nous parvient aujourd'hui grâce à l'historien Marc Michel, l'un des tout premiers chercheurs français à s'intéresser aux tirailleurs. Dans les années 60, il rencontre Bakary Diallo, qui accepte alors d'évoquer son expérience d'homme tout autant que ses faits d'armes.
Alors, il fallait attaquer. On est sorti en avant, on est sorti de tranchée, on s'est dépouillé. Et finalement, nous sommes arrivés jusqu'à la première tranchée. C'est un grand pas sur la première tranchée. Il y avait des Allemands, et on voyait tout ça, et on les voyait tirer. Et les Allemands aussi avaient déclenché leur tir de canon, puis alors les mitrailleuses et tout ça était quelque chose d'infernal. Mais il fallait faire. Alors nous sommes arrivés sur la première tranchée allemande. Alors là, j'étais blessé pour la deuxième fois.
Blessé pour la deuxième fois dans les tranchées allemandes, Bakary Diallo, parce que la Grande Guerre, c'est l'expérience du front, dans l'enfer assourdissant des tranchées face à des armes lourdes dont on ne supposait même pas l'existence. C'est aussi faire l'expérience de l'autre en découvrant sa différence.
Monsieur Diallo, on dit qu'à Menton, à Marseille et à Fréjus, il y avait beaucoup de femmes blanches qui fréquentaient des tirailleurs sénégalais.
Oui, ça c'est possible.
C'est possible.
Mais ça, là, je n'ai rien à dire.
Et on n'a jamais, il n'y a jamais de femmes noires qui sont venues en France.
Ah si, il y avait, moi j'ai rencontré là-bas des femmes noires, mais pas venues pour cela.
Ah,
mais
bon.
Des femmes noires qui étaient déjà en France,
qui
comme des bonnes, qui étaient amenées là-bas comme des bonnes.
Des Antillaises ou des Antillaises ou des Africaines?
Ah non, non, mais j'ai eu une Sénégalaise là-bas.
C'est toujours au chapitre des questions indiscrètes.
Ouais.
Est-ce que les femmes françaises et les filles avaient peur des tirailleurs sénégalais? Est-ce que vous l'avez senti?
Mais peut-être peur, parce que quand on ne connaît pas des hommes nouveaux qui arrivent, surtout noirs, alors qu'on est blanc, forcément, il doit y avoir quelque chose, une manifestation intérieure. Mais
jamais on vous l'a fait sentir.
Moi, je n'ai jamais eu ça. Aucun tirailleur qui se plaignait de ça.
Aucun, oui.
Quand nous sommes débarqués à Sète, nous avons vu des jeunes filles, parce que c'est toujours des enfants qui commencent des choses comme ça, qui viennent nous serrer la main. En passant, ils nous serraient la main, ils retirent leurs mains, ils regardent si c'est le sang d'aller. Alors, mais, tu vois, je lui ai touché la main, mais il ne m'amène pas le voir. Je dis, mais moi aussi, il ne m'amène pas. Alors, on riait comme ça. Mais c'est tout.
La voix de Bakary Diallo, encore un grand merci à Marc Michel, vous êtes sur RFI. Et c'est aussi ça, la Première Guerre mondiale, c'est faire l'expérience de l'altérité, c'est rencontrer des femmes et des enfants blancs qui n'ont jamais vu de noir, dans la joie et la bonne humeur. Autant de dimensions humaines, voire intimes, de l'expérience du tirailleur. Mais le tirailleur a-t-il une place dans l'histoire de la Grande Guerre? Que sait-on de cette histoire et comment se construit au fil du temps la mémoire de la mobilisation des tirailleurs? Ce sont les questions courageusement abordées depuis 3 ans par tous les participants au colloque sur les Africains dans la Grande Guerre, que ce soit à Paris, à Rabat ou à Tunis. Alors Pierre Vermeren, pourquoi justement avoir choisi de mener cette réflexion à Tunis, puis à Rabat, puis à Paris? Quels sont au fond les enjeux de ces 3 colloques et en quoi votre démarche elle peut intéresser aujourd'hui les arrière-petits-enfants des tirailleurs africains, maghrébins ou encore des soldats français?
Écoutez, si vous parlez des arrière-petits-enfants ou des arrière-arrière-petits-enfants, ce qu'on vient d'entendre, hein, c'est que ce sont des gosses qui font la guerre, des gosses entre 16 et 20 ans, qui ont eu une expérience, pour le coup, de l'altérité absolument inédite, hein, parce que c'est la première fois que tous ces Africains voit l'Europe, évidemment. C'est la première fois que les Français et les Européens rencontrent des Africains. Et d'ailleurs, annamites, c'est-à-dire vietnamiens, mais aussi malgaches, mais aussi nord-africains, bien sûr, arabes et berbères. Donc, c'est le début d'une histoire. Alors d'abord, évidemment, l'époque coloniale, elle a été vantée comme la réussite coloniale absolue de la Grande France. Bon. Ensuite, elle a été vouée aux hégémonies. Et puis ensuite, elle est tombée dans l'oubli. Parce que ces gosses, là, dont on parlait tout à l'heure, qui ont fait la guerre, c'était pas des intellectuels, c'était souvent des analphabètes, c'était des paysans. Ils sont rentrés chez eux après-guerre, ceux qui ont survécu. Et puis, ils n'en ont plus jamais parlé. Il faut sortir donc de l'idéologie, des représentations, des clichés. Et donc, pour ça, l'histoire, c'est quand même le meilleur moyen pour s'adresser aux populations d'aujourd'hui et leur dire que c'est une grande histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. Hein. Les troupes coloniales, c'est une partie relativement mineure par rapport à l'immense effort de guerre que les Français ont engagé dans cette guerre, mais c'est une partie symbolique et c'est une partie aussi active, très forte, auquel les autorités françaises ont eu recours comme moyen non seulement de communiquer, on dirait aujourd'hui, de faire la propagande sur la guerre, mais aussi de dire, regardez l'Empire, quel succès, il y a un monde énorme derrière nous, il y a des dizaines de millions de gens qui se battent pour la France, et donc ces troupes, elles ont eu un rôle, pas seulement militaire et pratique, mais aussi un rôle dans la communication et la propagande de guerre.
Salioum Baye, vous qui êtes archiviste, ancien directeur des archives nationales du Sénégal, vous qui continuez à soutenir à la fois vos pères, hein, comme les plus jeunes, Jean-Pierre Batte à vos côtés, ou Pierre Vermeuren ici dans ce studio, ou encore les étudiants qui veulent travailler sur cette Première Guerre mondiale. On vient d'écouter la voix de Bakary Diallo, tirailleur sénégalais en 14, que vous avez personnellement connu.
Tout à fait.
Est-ce que cette histoire-là, elle existe quelque part dans la tête de la jeunesse sénégalaise ?
Pas tout à fait vraiment. On ne peut pas dire vraiment qu'il y ait vraiment une mémoire qui soit restée particulièrement très forte sur cette Première Guerre mondiale. Il n'en reste pas moins qu'il est important de voir aujourd'hui qu'il y a eu cette statue de statue Edemba qui a été implantée en AOF, à Dakar notamment. Et à un moment donné, on a senti le besoin de la faire sortir de, disons, de cette place centrale où elle était. C'était à la place Tachère, donc actuellement la place Soweto, pour aller la mettre dans un cimetière. Heureusement, les historiens ont attiré l'attention du gouvernement pour dire, mais au fond...
De quel gouvernement ?
Du gouvernement Wad, puisque de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un soldat, d'un tirailleur sénégalais et d'un soldat français allant ensemble vers la victoire. C'est quand même une histoire partagée et très forte. Et il a été important que l'on sorte ces statues, qu'on la remette à la place de la gare, qui est une place centrale, et qu'il y ait désormais une journée du tirailleur. Et je crois que d'ailleurs, on voudrait que le 1er décembre, désormais de tous les ans, eh bien, il y ait cette fête du tirailleur pour que la population sénégalaise, la population africaine se l'approprie. Puisque je crois qu'il n'y a de patrimoine que celui que l'on s'approprie.
Alors Jean-Pierre Batte, vous qui êtes un spécialiste de la France-Afrique, est-ce que vous pensez que le monde de la recherche peut arriver justement à rétablir des relations plus saines entre Africains et Européens ? Et qu'est-ce que vous attendez des politiques pour que cette approche partagée de l'histoire de la Grande Guerre puisse réellement se mettre en œuvre ? Parce qu'avec cet exemple de la statue d'Mbaye Dupont, on voit bien aussi le rôle du politique.
On évoquait ensemble le rôle des chercheurs, historiens et archivistes dans leur temps, non plus seulement par rapport au passé. Dans la conférence, comme l'a rappelé Éric Dereau, au début des années 80, la commission a été créée en 92, donc pendant toute une décennie, lui et d'autres personnes ont cherché en tant que chercheurs à attirer l'attention du politique sur la décristallisation des pensions. Donc ce qu'on aurait pu attendre dans un premier temps, c'était en l'espèce la décristallisation en temps réel. En deuxième temps, c'était la question des interlocuteurs très rapidement, puisque les historiens après Marc Michel sont désintéressés du sujet. L'histoire des tirailleurs a glissé lentement dans la tradition militaire, donc dans un autre espace que celui de la recherche pratiquée par l'université. Nous, on arrivait un peu au troisième temps, c'est-à-dire après la réparation qui n'était pas que mémorielle, hein, il y avait une question d'égalité de traitement des vétérans. Deuxièmement, avec une réouverture du champ, c'est-à-dire que cette histoire des tirailleurs n'est pas qu'une histoire militaire, c'est une histoire sociale de l'Afrique. Mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des combats en Afrique. Les Belges en ont mené sur les Grands Lacs. Même s'ils ont été plus rapides, il y a eu les combats au Togo et de manière un peu plus conséquente en 1916 au Cameroun. Et puis, on l'oublie très souvent quand même en Afrique de l'Est, l'histoire des Askaris et du capitaine de corvette allemand Leto Vorbeck qui quand même n'ont pas perdu leur guerre et continuent à se battre quelque part contre les Britanniques en Afrique de l'Est. Donc Il y a toute une histoire, si vous voulez, qui avait été émiettée. C'était ça le constat de Rabat. Et on arrivait dans ce troisième temps où on essayait, et c'était le souhait de faire travailler archivistes, journalistes aussi, puisque RFI nous a suivis là-dedans dans cette politique, et enfin historiens, pour essayer de remettre en phase tous ces éléments du puzzle.
Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que votre démarche à tous, de chercheurs académiques, n'exclut aucunement d'autres approches. Je pense au collectionneur d'objets Jean-Pierre Vernet, à l'origine de la collection du musée de Meaux. Il raconte ses objets de tirailleurs au micro de Amaury Auchard.
L'objet peut-être qui est le plus emblématique pour moi, ce sont deux gamelles. C'est la gamelle d'un tirailleur indochinois, vraiment pour mettre sa rationnerie. Il n'y a pas de couvercle, il y a deux petites anses. Et puis cette gamelle du tirailleur indigène musulman, qui a deux formes différentes, pour qu'il ne la confonde pas avec celle du métropolitain, car dans celle du métropolitain, il y a eu du porc, il y a eu du saindoux, il y a eu de la graisse de porc. Donc il a sa propre gamelle et il ne se trompera pas et il n'ira jamais manger dans une gamelle traditionnelle de l'armée française. Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Ils rappellent déjà. Pour moi, ces objets rappellent déjà leur présence dans le conflit et leur présence immédiate. Alors nous sommes au musée de Meaux, les tirailleurs indigènes, enfin marocains plus exactement, le Maroc n'avait pas déclaré la guerre à l'Allemagne, tombent devant Meaux le 5 septembre. 1200 morts en 2 heures devant le bois du Télégraphe. Dans le musée, il y a une statuette par exemple de tirailleurs sénégalais en bois d'ébène, hein, qui fait 1,20 m de haut. Elle vient de Côte d'Ivoire et elle m'a été offerte il y a une vingtaine d'années. Pour moi, cette ivoire est vivante car en Côte d'Ivoire, ou dans tous les pays d'Afrique, noirs en tout cas, le tirailleur a gardé une mémoire. Le tirailleur existe, on parle des tirailleurs. Même sur certaines tombes, il y a encore un casque Adrian de la guerre 14-18 ou des fois de la Seconde Guerre mondiale pour rappeler que cet homme a servi dans les tirailleurs, dans l'armée française certes, mais dans les tirailleurs. Donc ils ont leur place, c'est évident. C'est un peu ce que je voulais exprimer en parlant de cette mémoire toujours vivante et vive, plus exactement, en Afrique, elle est très présente.
La mémoire vive des tirailleurs est présente en Afrique, nous dit Jean-Pierre Vernet. Mais qu'en est-il du côté des archives qui concernent le Maghreb, notamment la Tunisie? Très peu d'informations sur le vécu des tirailleurs tunisiens et presque rien sur les révoltes de tirailleurs, nous dit l'historien Chérif Faisal.
Il faut préciser que les archives sont muettes sur ces questions-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 150 soldats ont été tués dans la ville de Bizerte. Ils ne voulaient pas être embarqués de la caserne vers le bateau. Ils ont été en fait poursuivis dans toute la ville de Bizerte. Et à peu près à un nombre qu'on estime à 150 qui ont été tués parce qu'ils ne voulaient plus aller sur le front. D'abord, il y avait les premiers blessés. Il faut voir aussi les premiers blessés qui revenaient des fronts. Et les morts aussi. Et donc, à partir du moment qu'ils ont commencé à voir les morts et les blessés, là, ils ne voulaient plus y aller. Et donc, on peut dire qu'à partir de 1915 et 16, et d'ailleurs, il y a eu une révolte en 1916 en Tunisie 17, qui a pu aussi montrer que tout le monde n'était pas d'accord, surtout dans le sud tunisien. Et même des travailleurs. Vous savez, il y a plus de 1000 travailleurs qui sont morts parce que le changement climatique était brusque. Donc il n'y a pas que le phénomène de guerre qui tuait aussi. Il y a le phénomène de nourriture, en fait, d'hygiène, de climat. Ce changement brusque, en fait, de milieu a tué beaucoup de personnes.
Les tirailleurs de la Grande Guerre ne sont pas uniquement morts au combat. Ils sont également morts de froid, rappelle l'historien Chérif Faisal. C'était l'un des sujets d'étude du nouveau directeur de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants de la Marne, l'historien Julien Fargetas.
La question du froid et des troupes subsahariennes est une question qui apparaît en 1914 lorsque les soldats noirs sont introduits sur le front occidental. C'est une question difficile pour les Africains qui n'imaginent pas les climats qui étaient les nôtres en Europe occidentale à cette époque. Et on peut imaginer toute la difficulté de ces soldats qui reviennent amputés avec des membres en moins parce que ces membres ont gelé, expliquer la difficulté qui ont été les leurs, la dureté de la vie au quotidien. Tout ça, c'est des choses que finalement la population civile africaine a dû avoir extrêmement de difficultés à appréhender. Là où ça apparaît à travers la mémoire, c'est qu'on note, notamment durant la Grande Guerre, que cette question du froid va durablement marquer les esprits à travers différents témoignages de combattants français. Ils sont, on peut le dire, presque choqués de voir ces tirailleurs africains littéralement gelés sur place, évacués parce que hypothermie, parce que gelure et donc amputation, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui frappe les esprits à l'époque. Et effectivement, la question du froid va vite devenir un vecteur de différenciation, puisque tout du moins l'audit-on à l'époque, le noir ne réagit pas de la même manière que le blanc ou que le nord-africain, avec des pertes plus élevées. Et donc l'armée va constamment chercher à adapter son système de gestion pour que les soldats africains finalement puissent combattre de manière normale. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va les retirer du front pendant la période hivernale, les descendre dans le sud de la France et les ramener au front à partir d'avril pour combattre jusqu'à septembre, octobre, en fonction des aléas climatiques.
Julien Fargetas, Chérif Faisal et Jean-Pierre Vernet, tous ont participé au colloque sur l'implication des tirailleurs africains dans la Grande Guerre et la construction de cette mémoire partagée, pour reprendre la formule de Salim Baye. Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous nous interrogeons sur l'histoire des tirailleurs africains et maghrébins avec nos invités archivistes et historiens, tous unis derrière leur doyen Salim Baye, défenseur du concept de mémoire partagée entre la France et ses anciennes colonies. Salim Baye, si les indépendances ont été une libération du joug colonial pour les peuples africains et pour leurs élites, n'ont-elles pas favorisé une sorte de rupture scientifique en France et aussi en Afrique, justement sur la question des archives? Ce qui est votre rayon?
Je ne pense pas qu'il y ait vraiment rupture. En tout cas, en ce qui concerne le Sénégal, ça a été l'exception encore sénégalaise, puisque nous aimons bien ce mot. Le fond de l'AOF est resté. Alors que dans les autres colonies, dans les autres, disons, gouvernements généraux, les archives ont été rapatriées en France, notamment à Aix-en-Provence. Ces archives étant restées au Sénégal, il fallait continuer quand même à pouvoir en faire une copie. Pour d'abord la France, mais aussi tous les autres pays qui sont concernés par ce fonds. Et ça a été l'objet du microfilm à partir de 1958. Et ce microfilm, donc, étant disponible en France, permettait aux chercheurs qui s'intéressaient à l'Afrique, aussi bien les Africains eux-mêmes que tous ceux qui s'intéressaient à l'histoire de l'Afrique, des Américains, des Français, des Européens, de pouvoir à la fois travailler à la fois en France et au Sénégal. Et ça, je pense que c'est déjà aussi une sorte de partage. Et donc, il n'y a jamais vraiment eu de rupture sur ces questions-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la numérisation. Dakar va pouvoir, disons, les diffuser auprès, disons, de tous ces autres territoires constitutifs de la web. Il s'y ajoute que récemment, comme vous le savez, le président Hollande a remis au président Macky Sall une copie d'une autre guerre, disons, de la Seconde Guerre mondiale, et que ces archives de Tiaray ont été remises à la directrice des archives nationales en présence d'un comité qui a été mis en place par le président Macky Sall. Mais là aussi, notre idée, c'est de partager ce fonds avec l'ensemble de tous les pays qui ont fourni un contingent aux tirailleurs sénégalais. Je pense que c'est aussi tout un programme qui va se développer certainement à partir de l'année prochaine et surtout dans les années à venir.
Et c'est une information importante. Je rappelle que les archives de Tiaroy concernent le massacre de Tiaroy, c'est-à-dire des tirailleurs sénégalais qui avaient réclamé leur solde et qui ont été massacrés. Une histoire extrêmement sensible, mais une histoire à partager. Effectivement, une histoire en partage. On l'entend, les historiens sont aussi des porteurs de projets. C'est pour cela que, dans le colloque, nous avons entendu également Éric Dereau, chercheur associé au CNRS. Il présente son projet La Force Noire, du nom du livre du général Mangin, qui à l'époque dirigeait donc les troupes coloniales en AOF. Il est au micro de Amaury Auchard.
On a voulu faire, nous, de cette mission La Force Noire, un réel outil d'échange et de réflexion, c'est-à-dire à la fois qui répondait à cette demande des Africains: nous n'avons plus d'archives, nous n'avons pas de mémoire, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de matériaux, donc nous ne pouvons pas sereinement travailler de façon à la fois, je dirais, scientifique, historique et mémorielle, c'est-à-dire, je dirais, plus sociale, plus familiale. Donc, notre projet La Force Noire était d'abord une exposition en 20 panneaux qui s'appelle La Force Noire, exposition sur des supports très faciles à dérouler, à remonter, à présenter, très mobiles. Ça a été plusieurs films, des petits modules de 26 minutes, 52 minutes, qui permettaient là aussi d'être présentés à tous les publics. Ça a été un livre d'images, avec le maximum de documents pour servir évidemment au plus grand nombre. Ça a été un manuel scolaire à destination des collèges. Ça a été un site monté en partenariat avec RFI en 2010, appelé Tirailleurs, avec un CD. Et ça a été enfin la mise sur pied de musées ou de centres de mémoire ou de centres de documentation en Afrique. Donc un musée des forces armées à Dakar, un musée à Bamako, un musée à Ouagadougou, un musée à Tombouctou, un musée dans lequel nous avons été conseillers à Nouakchott, et des projets qui étaient assez nombreux au Niger, en Guinée. Il y a un projet très avancé en Guinée. Enfin voilà, pour moi, ce qui est important, c'est que ces États africains se prennent réellement en charge et prennent réellement en charge également leur histoire.
Que dire? Comment raconter cette histoire en partage? Comment chercher dans les archives? À quel sujet s'intéresser aujourd'hui pour écrire l'histoire des tirailleurs de la Grande Guerre? Qu'en pensez-vous, messieurs? La question aujourd'hui, c'est de sortir les tirailleurs africains de l'anonymat. Pierre Vermeeren.
Oui, bien sûr, c'est une chose très intéressante que permettent aussi bien les images que les objets, comme on l'a vu au cours de ces quelques jours de pérégrination. Les écrits sont rares, hein. Il y a des écrits administratifs, mais encore une fois, les hommes n'étaient pas des intellectuels, peu ont écrit. Je crois qu'au-delà de cette question des individus, il y a la question aussi plus collective de la réappropriation collective de cette mémoire, et elle permet au fond de sortir du face-à-face, du tête-à-tête parfois problématique, je pense au tête-à-tête franco-algérien. Le fait que nos amis algériens aient été présents lors de ces journées permet de voir que, au fond, ces problématiques, on les retrouve en Algérie, on les retrouve au Maghreb, on les retrouve en Afrique, et on peut en discuter dans un cadre collectif. Et ça, évidemment, dans un pays où cette mémoire est très douloureuse, l'Algérie ayant fourni un combattant sur trois, hein, en 14-18, des troupes d'Afrique, des troupes coloniales, il est évident que le sujet reste difficile à aborder, mais des pistes existent. Et aujourd'hui, avec la nouvelle muséographie à Meaux ou à Verdun, je pense qu'il y a une possibilité, avec Internet aussi, il y a des possibilités sans précédent d'envisager l'avenir et de partager justement les fruits d'un travail collectif très important maintenant.
Jusqu'à Madagascar, Jean-Pierre Batte.
Oui, jusqu'à Madagascar, où nous venons de terminer une opération de numérisation. Et à ce sujet, que font les archives? Eh bien, en premier lieu, il y a eu ce chantier de numérisation gigantesque par les archives militaires qui aboutit au projet Mémoire des Hommes, qui a eu comme prolongement, il faut le préciser aussi, la numérisation des archives de l'occupation française au Levant. Donc on trouve tous les bulletins, toutes les archives de renseignements jusqu'en 1940 là-bas, qui s'est redécliné chez nous aux archives nationales avec la numérisation donc des livres d'or des morts pour la France. On a souhaité privilégier, prioriser en premier lieu les communes de Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Sénégal, ce qui était pour nous un geste citoyen, de commencer d'abord par cette contribution, ce qui n'est pas tout à fait anodin à nos yeux. Et puis enfin, c'est sans doute ça, quand j'entends Pierre Vermeeren évoquer la réappropriation, c'est le fait qu'au-delà d'une histoire savante, il s'agit aussi d'une réappropriation par tous les citoyens africains, européens. Une réappropriation, pour une raison simple, c'est que si ce travail n'est pas fait et par les académiques, disons, mais aussi par les citoyens, il y a le risque que cette mémoire soit instrumentalisée, manipulée sur un calendrier politique beaucoup plus court. À l'heure où se multiplient plusieurs conflits armés en Afrique, il est évident que le message réel qui ne tombe ni dans la légende rose ni dans la légende noire et qui évidemment se profile à hauteur d'homme, eh bien, est à mon avis la principale contribution des archives dans cette approche un peu plus près de la réalité des choses.
Salioum Baye, encore une fois, cette histoire elle appartient à tout le monde, elle appartient aussi aux Africains, elle appartient aussi aux étudiants sénégalais par exemple. Comment font-ils là concrètement? On a bien compris, plein d'archives sont numérisées. Leur force aujourd'hui, c'est quoi? C'est Internet? Ils peuvent s'approprier les documents par Internet?
Tout à fait. Je vais même au-delà. Je veux dire qu'au-delà d'Internet, qui est un outil, et je crois que ce qui est important, c'est toute l'archivistique, disons. Tout ce que j'appelle, c'est l'archivistique totale, si vous voulez, une archivistique holistique, si vous voulez, puisque nous allons du document écrit jusqu'à toutes les autres formes de documents, même jusqu'à la culture matérielle. Puisque je crois que c'est ça qu'on a un peu vu avec les musées à Meaux et à Verdun. Les tirailleurs, c'est un sujet, il y en a mille autres. Il faudrait que ce partage se passe sur tous les autres sujets possibles.
Mais je veux dire concrètement, comment les jeunes Africains aujourd'hui ont accès à cette numérisation des archives? Est-ce que c'est par le biais d'Internet? Est-ce qu'ils vont à l'université? Ils vont dans les musées africains? Ils peuvent avoir accès par l'Internet?
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est possible.
C'est possible.
Il y a énormément de possibilités d'accès. Mais je crois que pour cela aussi, il faut que les gens sachent. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pourquoi je voulais revenir sur cette archivistique. Les historiens, ils ont des sujets. Ils les exploitent. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut bien qu'ils aient des sources. Or, ces sources, c'est aux archivistes à les classer, à les rendre accessibles. Et je crois que c'est sur cet aspect qu'il faudrait insister. Et je crois qu'il faut qu'il y ait cette jonction historien-archiviste pour bien montrer qu'il n'y a pas vraiment de dichotomie, qu'il n'y a pas de séparation étanche entre ces deux métiers, ce qui fait d'ailleurs qu'il nous arrive, j'ai à ma droite un agrégé en histoire, archiviste paléographe, moi-même il m'arrive de taquiner l'histoire puisque je suis membre du comité, disons, de rédaction du projet d'histoire générale du Sénégal. Et je crois que c'est vers cela qu'il faut aller, une combinaison de tout cela pour arriver à sauver cette mémoire partagée.
Alors tout le monde au boulot.
Tout le monde au boulot, voilà.
Merci Salioum Baye, Jean-Pierre Batte, Pierre Vermeuren d'avoir partagé votre réflexion sur la mémoire des tirailleurs africains. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, mis en onde par Sophie Janin, en partenariat avec les Archives Nationales. Podcasté, téléchargé, écrivez-nous sur Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.